Milkshake.
Crise hospitalière, fermeture de lits, manque de personnel. Voici ce qu'on entend de nos jours quand on parle du système de santé. Mais aujourd'hui, je vous propose d'en savoir un peu plus sur le quotidien soignant et ce qu'il se passe entre nos murs. Des débuts à l'hôpital aux premières désillusions, la quête de cette juste distance et le rapport que l'on a à la mort. Sans oublier cette fameuse vocation soignante dont on parle tant. Alors, à quoi ressemble vraiment le quotidien des soignants ? Je m'appelle Laura Boujna et vous écoutez Paroles de Blouse, un podcast produit par MedCheck Studio et écrit par Emma Vuagnou, infirmière en réanimation. Épisode 1. Je me suis souvent demandé, surtout lors de mes derniers mois d'études, si un jour je serais prête à endosser le rôle pour lequel je postulais, celui d'infirmière. Rapidement, j'ai compris que je ne le serais jamais vraiment et que toutes les personnes dans mon cas faisaient semblant elles aussi. Ça ressemble un peu au moment où tu es au bord du vide, ton parachute dans le dos, et que tu t'apprêtes à sauter de l'avion. En tout cas, je me l'imaginais comme ça. C'est effrayant, mais ça t'attire. Et c'est un peu ce pourquoi tu as décidé de monter dedans. Puis, un jour, ma collègue m'a dit cette phrase.
C'est en se jetant dans le grand bain qu'on apprend à nager.
Non, je ne serai jamais vraiment prête, mais oui, à un moment donné, ce sera suffisant pour commencer. Sauf que l'instant où l'on décide de se lancer, il est un peu vertigineux. Ça faisait presque 25 ans qu'elle nageait dans les mêmes eaux, celles de la réanimation. Alors qu'elle était presque au niveau olympique, ou du moins dans les champions, moi je n'étais encore qu'au stade bébé nageur. Un bébé nageur à qui on avait demandé cette semaine-là de nager un dos crawlé. J'étais arrivée dans le service il y a un mois et demi. C'était mon deuxième poste. Avant ça, je travaillais de nuit en service conventionnel. Venir travailler deux jours en réanimation, c'était un peu comme repartir de zéro. Et ça m'angoissait terriblement. Lors de mon arrivée, j'ai été formée pendant un mois par mes futurs collègues. 4 semaines. C'est beaucoup, mais franchement, pas suffisant pour connaître et assimiler l'ampleur des prises en charge possibles dans ce genre de service. Respirateur, dialyse, perfusion sur voie centrale, manipulation de drogue et d'hypnotique, il y en avait des choses à connaître. Et au bout d'un mois, je ne me sentais pas totalement prête à devoir prendre en charge 2 patients aussi lourds et complexes que ceux qui étaient hospitalisés ici. La question du bon moment s'est alors posée. Est-ce maintenant ? Est-ce que je suis capable ? Est-ce que c'est trop tôt ? Ce moment entre la formation et celui où l'on se trouve en autonomie est difficile à appréhender. On se demande si on est vraiment prêt, si on ne se met pas en danger soi-même ainsi que les patients que l'on a en charge par la même occasion. Les risques et les conséquences éventuelles sont bien plus importantes et les questions que l'on se pose d'autant plus légitimes à ce sujet. Justement, le fait de douter de soi, c'est avoir conscience de ses responsabilités. Il faut seulement parvenir à trouver le juste milieu entre l'inquiétude et la confiance. Avec du recul, je pense que si on m'avait proposé encore une semaine de doublure, ces questions auraient persisté et se seraient même intensifiées au fil du temps. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je manquais seulement de confiance en moi. Au fond, je savais que j'avais les ressources nécessaires. Mon parachute. Et qu'il fallait juste que je trouve le moyen de faire taire ma peur pour sauter de l'avion et l'ouvrir au bon moment. Lors de mes premiers pas en autonomie, je me souviens qu'il y avait eu pas mal d'activités dans la réanimation.
À vrai dire, on fonctionne beaucoup par période. Il y a des moments de l'année où l'activité bat son plein et d'autres où c'est beaucoup plus calme. Il faut croire que je suis arrivée pile à l'heure, juste avant le pic hivernal. En l'espace d'une semaine, j'ai eu l'occasion de
faire une entrée SAMU,
poser plusieurs cathéters,
intuber en urgence un patient qui se dégradait,
réaliser une consultation d'annonce à la famille,
poser des limitations thérapeutiques,
mais aussi toute autre complication relative à la prise en charge de patients. Mais ça, ce serait bien trop long à détailler. Bref, cette semaine, c'était un peu comme le baptême du feu. Une semaine de formation express, mais en autonomie.
C'est en se jetant dans le grand bain qu'on apprend à nager.
Ce mois de doublure m'a permis de connaître l'organisation du service, rappeler le béaba de la réanimation, mais aussi de sécuriser les patients que j'allais prendre en charge. Finalement, les équipes sont assez clairvoyantes. Elles savent très bien que pendant 4 semaines, je n'allais pas tout savoir et qu'au bout du compte, l'idée, c'était de me rendre efficace pour faire les soins de base de réanimation et qu'en cas de souci, je puisse être en mesure de réagir ou d'alerter. Durant cette semaine de formation intensive, comme je l'appelle au vu du nombre de premières fois face auxquelles j'ai été confrontée, j'ai été actrice de ma première intubation. Et c'est à l'issue de ce soin-là que ma collègue la plus expérimentée du service m'a dit cette phrase.
L'intubation, c'est le moment où le médecin raccorde les poumons du patient à un respirateur, grâce à une sonde d'intubation qu'il place dans la trachée, jusqu'à la carène, c'est-à-dire à l'intersection de 2 branches principales. Ce soin nécessite que le patient soit endormi grâce à des drogues, les sédations, que l'on injecte dans les veines. La complexité du soin réside dans la temporalité entre le moment où le patient est totalement endormi et ne respire plus et le moment où le patient est branché au respirateur. Il ne faut pas que l'intubation soit trop longue pour pas que le patient ne se retrouve sans oxygène trop longtemps. Pour ce faire, on constitue une réserve respiratoire en préoxygénant le patient avant le geste, en lui faisant respirer de l'oxygène afin de faire augmenter le pourcentage de ce dernier dans le sang, c'est la saturation. En gros, le patient ne respire plus jusqu'à ce qu'on le raccorde à la machine. L'important, c'est donc la coordination et la rapidité. Il ne faut pas perdre de temps sans pour autant se presser.
Ce jour-là, c'était la première fois que j'avais vraiment un rôle à jouer au moment du geste. Le souci, c'est que je savais plus trop ce que je devais faire et ce que je devais anticiper. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais sûrement demandé à un collègue de prendre ma place pour que cela se passe le mieux possible. Mais on reviendrait au même. Reculer pour mieux sauter. Alors, il fallait que je prenne mes responsabilités, sans oublier que je pouvais à tout moment demander de l'aide si vraiment je ne m'en sentais pas capable.
C'est le médecin qui intube le patient. Mon rôle est de l'assister de telle sorte à ce que cela se passe au mieux. Préparer les médicaments d'induction pour endormir le patient, préparer les relais, c'est-à-dire les grosses seringues que l'on va mettre dans les machines pour délivrer un débit continu, mais aussi anticiper les effets des sédatifs, par exemple hypotension, en préparant de la noradrénaline, qui est le traitement adapté.
Il fallait que je prépare le plateau d'intubation, mon système d'aspiration pour enlever tous les dépôts qu'il pouvait y avoir dans la bouche du patient, mais aussi l'installer, le rassurer, lui expliquer ce qui allait se passer. En fait, tout un tas de petites choses qui semblent logiques quand on visualise le soin. Mais sur le moment, quand on a un peu peur, eh bien, ce n'est pas toujours aussi limpide. J'ai eu de la chance ce soir-là, parce que toute la réanimation était calme. Mes collègues n'étaient pas loin au cas où il y aurait besoin d'aide et pour savoir si tout se passait bien. La médecin anesthésiste était bienveillante. Elle savait que je venais d'arriver et que mes gestes ne seraient sûrement pas aussi automatiques et assurés que ceux de ma collègue qui avait 25 ans de service. Elle a su me rassurer sans négliger l'urgence. L'aide-soignante qui m'accompagnait avait aussi de l'expérience. Cela faisait 15 ans qu'elle était dans le service. Et sa présence a su m'apaiser. Même si j'étais la seule infirmière dans ce box, Je me suis sentie entourée et j'ai pris conscience que finalement, je ne serais jamais vraiment seule, même quand je pensais l'être. Quand j'ai peur ou je suis inquiète, j'ai un peu de mal à me focaliser sur ce que je dois faire parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Sauf que justement, dans des situations comme ça, il faudrait se focaliser sur ce qu'on doit faire en priorité et non pas oublier ce qu'il se passe à côté, mais le mettre au second plan. Prioriser, ordonner ses pensées pour ne pas se perdre. C'est quoi l'urgence? Qu'est-ce qui nécessite toute mon attention? Tout ça, c'est surtout dans l'action que vous la prenez. La fois d'après, vous aurez construit un premier schéma que vous adapterez sûrement pour la deuxième fois, puis la troisième, etc. Comme un dessin qu'on reprendrait à plusieurs reprises. Les connaissances, c'est l'esquisse. L'expérience, c'est la reprise. Finalement, le soin s'est bien passé. Le souci, c'est que le patient était assez âgé et avec de gros antécédents. Du coup, les doses de sédatifs ont grandement fait chuter sa tension. Le savoir théorique m'a permis d'anticiper avec de la noradrénaline et après cette expérience, je saurai qu'avec des patients aussi âgés, il me faudra être plus vigilante. Je me souviens qu'après le soin, j'avais peur de quitter la chambre. Comme si rester à côté de son chevet pouvait tout régler alors que j'avais fait ce qu'il fallait et que depuis plusieurs minutes déjà, tout se stabilisait. Finalement, cette première urgence m'avait un peu chamboulée. Pas tant dans le déroulé des événements en tant que tel, mais surtout dans le constat que j'avais fait a posteriori. À tout moment, tout pouvait basculer pour mes patients. Une heure avant qu'on endorme cet homme, son fils a appelé. Il m'a demandé des nouvelles de son papa et je lui ai dit que tout allait bien parce que c'était vrai. Tout allait bien à ce moment-là, sauf qu'en l'espace de quelques minutes, il s'est dégradé, au point qu'on ait besoin de le mettre dans le coma artificiel. Avec du recul, c'est finalement à ce moment-là que je me suis rendu compte que la première difficulté à laquelle j'allais devoir faire face, c'était l'imprévu. Quand je suis sortie de cette chambre pour retrouver mes collègues, tous m'ont demandé comment je me sentais. Bien, en soi. Mais mon esprit ne cessait de se questionner sur les événements. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que j'arriverai à gérer la prochaine fois? Finalement, mon cerveau qui était resté dans le soin ressassait encore et encore, alors que mes collègues qui avaient déjà le recul sur la situation m'ont offert le constat réel et rassurant qui a su apaiser mes craintes. Le patient est en sécurité et il a été stabilisé. Tout va bien. Et voilà une première fois qui rendra la seconde moins impressionnante, seconde fois qui nourrira la troisième. Vous voyez mieux l'idée du dessin? Puis, un jour, je serai cette infirmière qui veillera derrière la porte et qui rassurera ce nouvel infirmier pour qui ce sera la première fois. Si je reprends la phrase de ma collègue, je ne peux que la valider. Parce que j'ai la sensation que c'est en se confrontant seul aux questionnements et aux problèmes que l'on rencontre que l'on apprend à trouver les réponses. Avant, il y avait toujours quelqu'un derrière moi pour me la donner sans que j'aie besoin de trop la chercher. Maintenant, j'étais souvent seule. Enfin, presque. Aujourd'hui, je me pose moi-même les questions et je cherche les réponses, seule ou avec l'aide d'autres soignants. J'ai la sensation qu'une fois qu'on est lâché, on ne se repose plus sur l'autre et on prend conscience des responsabilités qu'on a. Être soignant, c'est se voir confier le soin de personnes malades quelques heures durant sa journée. Et s'il y a un souci dans la prise en soin, c'est en partie de ma responsabilité, mais aussi celle de tous ceux qui interviennent. C'est donc dans mon intérêt, pour me protéger, et surtout protéger mes patients, que de chercher et de trouver les bonnes réponses quand je doute. Le diplôme, c'est finalement le moment où on estime que vous êtes capable de questionner ce que vous faites et ce qu'on vous dit, car vous avez assez de connaissances théoriques pour le faire. La pratique, c'est sur le terrain que vous allez vraiment la parfaire. Aujourd'hui, ça fait un an que je travaille dans ce service et 2 ans que je suis infirmière. J'ai beaucoup appris sur le terrain et je commence petit à petit à rester à la surface du grand bassin. Parfois, je m'autorise à m'accrocher sur le bord quand je sens que je peux avoir la tête sous l'eau en demandant de l'aide ou en passant le relais. L'expérience, elle me permet de parfaire mes mouvements de nage, de savoir comment appréhender les remous et de ne plus couler. Finalement, ce grand saut, il est nécessaire pour oser. Au début, l'eau est un peu froide, ça surprend, ce n'est pas agréable. Mais après, on s'y sent bien. C'est promis. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner, sans oublier de nous couvrir d'étoiles. Pour d'autres podcasts autour de la santé, rendez-vous sur medcheckstudio.com. Prenez soin de vous et à bientôt.